Malgré qu'il soit dans la fleur de l'âge, Éric Simard est considéré comme un vieux de la vieille en matière de prévention du vieillissement. Chercheur et docteur en biologie, Éric Simard est actif sur plusieurs tribunes scientifiques, président d'Idon Technologie, l'entreprise derrière la gamme de produits Vitoli, et auteur de livres, dont son quatrième, dont il vient nous parler aujourd'hui. Bonjour Éric.
Oui, bonjour.
J'ai eu le grand plaisir de collaborer avec vous pour rédiger l'agenda santé de Sélection Retraite. Alors, j'étais très curieuse d'entendre votre nouveau-né sur les personnes âgées. J'avais beaucoup apprécié « Vivre jeune plus longtemps », votre premier livre, qui a été suivi de « Vivre jeune deux fois plus longtemps ». Et là, le quatrième s'appelle « Vivre jeune 4 ». Ne soyez pas esclave de votre génétique. Alors, va-t-on pouvoir être jeune 4 fois plus longtemps?
En fait, le titre du deuxième, qui était « Deux fois plus longtemps », c'était un clin d'œil qui venait du médecin qui a écrit le deuxième livre et le troisième avec moi. Et pour continuer, en fait, dans la lancée, dans l'esprit de vivre jeune, on va continuer à utiliser, en fait, le titre et continuer à couvrir des sujets plus variés et approfondir certaines facettes qu'on n'a pas approfondies encore à l'heure actuelle. C'est que dans le quatrième, une chose fort intéressante, on aborde certaines problématiques de santé, en particulier comme le cas de la prévention de la démence et de l'Alzheimer, le cas des problèmes de sommeil aussi qui touchent énormément de gens. J'explique aussi le fonctionnement du système immunitaire. Je donne aussi des conseils sur comment faire pour garder un système immunitaire le plus performant possible, ce qui est extrêmement important actuellement.
Oui, tout à fait. Puis je crois que vous avez aussi décidé de l'écrire à plusieurs mains, d'avoir des points de vue différents pour enrichir votre propos.
Oui, tout à fait. Depuis le tout début, j'ai toujours eu à cœur de couvrir l'ensemble de toutes les facettes des saines habitudes de vie et de la prévention. Donc, à la fois, on parle beaucoup de l'alimentation et de l'activité physique, mais outre ça, il y a deux autres grandes facettes qui sont extrêmement importantes, la gestion du stress, l'anxiété, j'inclus dans ça le sommeil, oui, et la qualité de la vie sociale. Ce que je me suis entouré, en fait, me permet d'aller plus profondément dans certains sujets que je n'aurais peut-être pas été à l'aise à traiter moi-même tout seul, comme par exemple la question de la problématique de la surmédication en vieillissant. Donc, on a un pharmacien qui en parle dans le quatrième livre. Et on a un psychologue qui collabore aussi, parler certains aspects de l'état d'esprit, entre autres des trucs dans le cas des gens qui sont atteints de fibromyalgie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour prendre soin de son état d'esprit? C'est une facette aussi extrêmement importante.
Ben, je pense que l'état d'esprit, en ce moment, c'est un enjeu particulièrement important. Il y a toute la notion d'isolement. Et il y a une statistique dans votre livre qui me parle beaucoup, qui démontre à quel point une vie sociale de qualité est un facteur de prévention. Pouvez-vous nous en parler un peu?
Oui, puis, en fait, c'est un... La vie sociale de qualité est extrêmement importante. Je n'hésite même pas à dire, même en conférence, que c'est probablement la facette la plus importante. Mm. Puis il y a plusieurs raisons d'attacher à ça. C'est que les gens qui ont une vie sociale de très grande qualité, ça les amène habituellement à être plus actifs. Ça les amène à considérer aussi des facettes de la vie au niveau de la prévention, au niveau de la gestion du stress dans lesquelles ils vont être plus efficaces. Il y a bien sûr la grande étude de Harvard qui a beaucoup fait la manchette dans les dernières années. Je crois que ça a été publié en 2017, là, où l'Université de Harvard avait montré que la qualité de vie sociale était tellement importante qu'à l'âge de 50 ans, on serait capable de prédire les gens qui vont bien vieillir en regardant la qualité de la vie sociale. Mais là, il faut bien comprendre une chose, là, c'est que quand on parle de qualité de vie sociale, le nombre d'amis Facebook ne compte pas. Ça prend des vrais amis. Ça prend des gens sur qui on peut compter. Ça prend une amitié qui repose sur de la profondeur, des sentiments. C'est extrêmement important. Fait que, en fait, la question des sentiments est un bon indicateur. Si vous ne parlez pas de vos sentiments avec vos amis, c'est que ce n'est pas une amitié de très grande qualité.
On va continuer à se parler. Vous dites que c'est un facteur prédictif. J'ai justement cet âge-là, j'ai 51 ans. Alors, d'après vous, quelle chance j'ai de devenir centenaire et qu'est-ce que je dois faire là, pour y arriver en santé?
Aujourd'hui, c'est étonnamment, en fait, les chances des gens au cours des prochaines années d'atteindre 100 ans vont augmenter. Et autrement dit, le nombre de centenaires va augmenter. C'est pas juste une question de comment ils ont vécu auparavant. C'est plus une question de connaissance qu'on a dans le domaine puis de l'application des saines habitudes de vie. Fait que malheureusement, il y a beaucoup de gens à l'âge de 50 ans qui vont commencer à prendre connaissance des problèmes de santé qu'ils ont, parce que là, les petits bobos sortent, puis les enfants partent de la maison. Ça fait que tu as plus de temps pour, disons, prendre connaissance des problématiques. Mais je te dirais que, d'un, tes chances de te rendre à 100 ans sont probablement très bonnes, puis probablement au-dessus de la moyenne, parce que, d'un, ça t'intéresse.
J'apprends tout plein de choses avec vous encore cet après-midi.
Et pour répondre à ta question comme il faut de quoi faire ou de qu'est-ce que tu devrais faire, moi, ce que j'explique aux gens avant tout, normalement, c'est d'essayer de prendre connaissance de l'ensemble des facettes, d'apprendre à mieux se connaître personnellement pour savoir lesquelles des facettes on peut faire les plus gros gains en premier, puis de considérer qu'on va continuellement s'améliorer. Autrement dit, on focus sur une facette en premier qu'on a améliorée de nos habitudes de vie ou des facettes importantes pour la santé. Une fois qu'on l'a améliorée, on passe à la suivante, quitte à y revenir à un moment donné, une fois qu'on aura fait un tour de roue complètement et qu'on sera prêt à peut-être faire une deuxième itération. On devrait considérer que la santé, c'est une façon de voyager et non pas un objectif. On ne va jamais l'atteindre. C'est une façon de voyager, en fait, qui va nous permettre de voyager plus longtemps.
Ces temps-ci, c'est la plus merveilleuse façon de voyager. J'aime bien cette façon-là, itérative et par levier, qui nous amène justement vers une prochaine étape. Et justement, parlant d'étapes, vous parlez dans ce nouveau livre-là de vieillissement primaire et de vieillissement secondaire. Quelle est la différence?
Ah, c'est fort intéressant. En fait, c'est un concept pratiquement nouveau en biologie. C'est important d'en parler, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont pas encore au courant. Puis quand je dis beaucoup de gens, là, même au niveau de nos universités, il y a eu un gros changement de paradigme au niveau du vieillissement qui a commencé au début des années 2000, parce qu'on s'est rendu compte que les anciennes théories qu'on avait sur les raisons même du vieillissement biologique tenaient pas la route. Et ça a pris à peu près 10 ans avant qu'on se rende compte qu'il existait des mécanismes qui poussaient l'organisme à vieillir. Donc, ce qu'on appelle maintenant le vieillissement primaire de l'organisme. Pour faire simple, là, on a des processus biologiques passés l'âge adulte qui vont nuire à nos mécanismes de maintenance et de réparation cellulaire et qui vont donc causer le vieillissement. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le vieillissement primaire. C'est relié à la vitesse à laquelle on se développe. Donc, tous les petits organismes vivants qui se développent rapidement vont vieillir très vite dû au vieillissement primaire. Une souris a 20 jours de gestation, ça ne vivra pas plus que 3 ans. Donc, dans l'opposé, on a des organismes qui vivent extrêmement longtemps. Je donnais en exemple aussi, je pense que c'est dans le deuxième livre, le requin du Groenland. Il va atteindre la maturité sexuelle à 150 ans.
Late bloomer, comme on dit.
Ce que moi, j'ai appelé un vieil ado.
Oui.
Et il va vivre au moins 300-350 ans. Donc, lui, son vieillissement, son développement est tellement lent qu'il vieillit pratiquement pas, ce qui vit très longtemps. Et pour bien répondre à ta question, le vieillissement secondaire, lui, est caractérisé par tout notre environnement et nos habitudes de vie. Donc, les gens qui fument vieillissent plus vite. C'est du vieillissement secondaire accéléré, dû à la toxicité, en fait, du tabagisme.
Bien, il y a un mot que j'ai appris aussi dans votre premier livre, puis je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui le connaissait, le mot « télomère ». Et puis, c'est drôle, hein? On dirait que ça sonne comme un vieux prénom, comme Télesphore.
Oui, c'est amusant, ça.
Mais vous, qu'est-ce que c'est un télomère?
Un nom de marionnette, hein?
Télomère et Télesphore vous parlent de vieillissement.
En fait, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler des télomères au cours des dernières années parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir derrière. C'est que les télomères sont l'extrémité de nos chromosomes qui empêchent nos chromosomes de se souder entre eux. C'est un peu... Mais d'un point de vue biologique, c'est exactement ça. Et les télomères ont un rôle à jouer dans la réplication de l'ADN et vont raccourcir avec le temps. Puis ils vont raccourcir plus vite si on a de mauvaises habitudes de vie. Et ils vont devenir de plus en plus courts selon aussi l'impact du vieillissement. Fait qu'il y a des gens qui avaient eu beaucoup d'espoir derrière les télomères en pensant que si on les rallongeait, on pourrait rallonger l'espérance de vie, rallonger la longévité en santé. Entre autres, basé sur le fait que nos cellules souches, en fait, les cellules qui vont donner lieu à toutes les cellules de notre organisme qui sont capables de régénérer des tissus, maintiennent des télomères plus longs. Et plus ils les maintiennent longtemps, plus ils sont capables de produire de nouvelles cellules longtemps. Le problème dans cette explication-là, en fait, là, c'est que c'est pas complètement vrai. Ce que je viens de vous dire là est vrai, oui, mais l'application n'est pas possible. C'est que les télomères sont comme une espèce d'horloge qui donne une indication de la durée de vie utile des cellules. Mm. Plus les cellules sont maganées, sont usées, sont vieilles, plus les télomères sont courts. Et c'est correct que ce soit ainsi. Parce que quand les télomères deviennent très courts, l'organisme comprend que la cellule est plus bonne, puis elle va la remplacer. Et si tu ne l'en remplaces pas, elle risque de devenir cancéreuse. Fait que finalement, le rallongement des télomères risque d'augmenter, en fait, l'incidence du cancer. Fait que la meilleure façon, finalement, de rallonger nos télomères, c'est de rester en santé, tout simplement, d'avoir des bonnes habitudes de vie. Même l'état d'esprit a un impact sur la longueur des télomères. Et ce faisant, bon, on va maintenir nos cellules en santé plus longtemps, puis ils vont être utilisables plus longtemps, ce qui fait que les télomères vont rester plus longs.
Okay, les télomères, là, c'est comme le mascara de la santé pour nos cils.
C'est vraiment un indicateur de la durée de vie utile des cellules. C'est comme une horloge. Ce que j'explique aux gens, c'est comme une montre. C'est que si tu recules ta montre, normalement, tu n'as pas plus de temps.
J'ai envie, avant de vous poser la question sur la chanson que vous avez choisie pour nous, que vous nous parliez d'une anecdote qui est dans un de vos livres. Vous parlez d'une championne de course à pied qui a 80 et quelques passés.
Oui, ça, c'est un exemple vraiment fabuleux. C'est une dame... Madame Larkin, en fait, c'est une dame de l'Afrique du Sud qui était une Anglaise à l'origine de l'Angleterre. Ce qui était patent dans son cas, elle, c'est qu'elle a, en fait, à 76 ans, elle avait été diagnostiquée avec de l'ostéoporose. Mm. Puis à 82 ans, c'est une professeure de piano qui s'est mise à faire de la course à pied à 82 ans. Et je l'utilise beaucoup en conférence, en fait, pour donner un bon exemple aux gens qu'elle n'avait jamais couru, là. Et elle explique même, en fait, quand tu lis ses témoignages, elle explique que quand elle a commencé à courir, elle n'était même pas capable de se rendre au coin de la rue.
Wow.
Elle courait 3-4 pas, elle venait déjà essoufflée, elle marchait un peu, puis assez motivée à faire de la course à pied parce que son fils était revenu vivre à la maison, chose qui arrive. Et lui, il faisait de la course à pied, puis elle voulait passer du temps avec. C'est quand même, c'est beau aussi comme histoire.
Absolument, histoire intergénérationnelle, c'est ce dont on va parler à l'émission, oui.
Oui, puis après 4 à 5 ans, en fait, au fil des années, elle s'est découvert une passion pour la course à pied, puis elle a fini par faire des demi-marathons en très grande quantité, puis elle avait déjà, il y a quelques années, au-dessus de 500 médailles de gagner.
Wow!
Elle fait des marathons à plus de 80 ans, là. Oui, c'est devenu, c'est extraordinaire, en fait, comme accomplissement. Ça demontre qu'avec beaucoup de volonté, des fois, on peut faire vraiment de grandes choses.